Bonjour chers auditeurs, l'équipe d'animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy est heureuse de vous retrouver dans le cadre de son émission mensuelle. D'autant que nous avons un invité qui connaît très bien les arcanes tant de la formation de la radio libre associative et n'en parlons pas du monde associatif. Vous êtes sur les ondes de Radio Galère, sur le 88.4 de la bande FM ainsi que sur le canal 8C du réseau numérique terrestre ANDA+. Vous pouvez retrouver l'actualité du comité Mamega au www.vivreensemble.org. Nous sommes ici présents avec Karima Berich, notre passeuse de mémoire, et Saïd Bibou-Kounouch, notre co-animateur. Pour l'instant, jetez le nom de notre invité de surprise. Et vous allez le reconnaître rapidement, c'est comme il nous l'a dit. Il a un phrasé et une manière de s'exprimer particulière. Donc, vous allez le reconnaître. Nous vous proposons une première pause musicale afin de rendre un hommage au délégué au préfet à l'égalité des chances, Patrick Barrault, parti prématurément. Il manquera au monde associatif et à notre secteur. Après cette pause musicale, nous laisserons justement la parole à cet invité mystère. Il pourra nous en dire deux mots parce qu'il l'a bien connu également. Donc, première respiration musicale avec un morceau de Grand Corps Malade intitulé « Nos absents ».
Pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Les Échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Mamega sur les ondes de Radio Galère 88.4 FM, sur le canal 8C du réseau numérique terrestre ANDA+, ainsi que sur www.radiogalère.org. Vous pourrez ensuite réécouter cette émission en streaming sur le site du comité Mamega au www.vivreensemble.org. Nous sommes donc, comme nous le disons depuis le début de l'émission, en compagnie
de
notre invité.
Le conducteur, tu as mis PL. Est-ce que ça veut dire poids lourd?
C'est un poids lourd du monde associatif, si je peux me permettre. Mais on va le laisser se dévoiler, se présenter et peut-être nous dire quelques mots sur Patrick Barrault, dont il a croisé la route au long de son parcours professionnel.
Oui, bonjour aux habitants du Grand Saint-Barthélemy, habitants bien-aimés, aux associations et à tout le reste de Marseille. Si je dois parler en deux mots de Patrick Barrault, il fut délégué du préfet à l'égalité des chances ici même, sur notre secteur, pas longtemps. Ensuite, il est redescendu un peu plus bas dans le 14e. On va dire simplement que c'était un homme plein d'enthousiasme. Je veux dire, il venait avec le rire, quelle que soit la situation, la difficulté de la situation, il venait avec le rire chevillé au corps. Donc il donnait envie de... On avait envie de le suivre dans ce qu'il proposait. Je l'ai vu il y a quoi ? Il y a un mois, c'était à l'occasion de l'appel à projet politique de la ville. Nous ne nous étions pas vus depuis fort longtemps. Et nous étions très heureux de nous rencontrer, bien entendu. Et c'était un éternel blagueur. Il m'interpelle en me disant « Alors les os, tu n'as pas encore perdu tes os ?» Ça, c'était le type de blague bidon que faisait Patrick Barrault. Ça le faisait pas mal rire. Et je lui ai rappelé que c'était au moins la 10e fois qu'il me la faisait. Non, c'était un gars plein d'enthousiasme. Et il est parti, comme j'en entends beaucoup en ce moment, d'une crise cardiaque ou d'un AVC, jeune encore, 60 ans.
Effectivement, très jeune encore. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, nous avons donc un invité surprise quand même aujourd'hui, Pierre Lézot.
Je viens de le dire, as-tu perdu les os ?
Exactement, mais est-ce qu'il y en a qui ont saisi ? Je ne sais pas. Logiquement, ceux qui te connaissent le saisiront, mais...
Si.
Peut-être Karima, tu veux dire quelques mots aussi sur Patrick ?
Oui, Patrick, je l'ai connu très peu malheureusement, mais effectivement, comme l'a dit si bien Pierre, c'était quelqu'un qui était toujours enthousiaste, toujours à l'écoute du secteur associatif, des acteurs des territoires dans lesquels il a pu effectivement mener sa mission de délégué du préfet à l'égalité des chances. Et il est mort le 31 octobre. Une crise cardiaque, jeune encore. Et ça nous rappelle qu'effectivement, il y en a d'autres qui l'ont précédé. Et voilà. Donc, je ne l'ai pas connu autant que d'autres délégués qui sont passés sur ce territoire, mais j'ai lu tous les petits mots qui sont passés, qui ont été envoyés, notamment à sa collègue Fabienne Bénet, qui est déléguée du préfet à l'égalité des chances sur les territoires du Grand Saint-Barthélemy. Et le souvenir qu'on garde, en tout cas les acteurs différents territoires, c'est quelqu'un qui était très proche des acteurs du territoire et très à l'écoute de ce qui s'y faisait. Voilà.
Effectivement. Et donc, je laisse la parole à Farid, qui est un acteur du territoire, et je sais qu'il appréciait particulièrement Patrick Barrault.
Oui, c'était quelqu'un... Déjà, c'était un pote, comme je disais. C'était pas un délégué des préfets, c'était... Il était proche des habitants, pas des acteurs professionnels pour moi, à titre personnel. Et il avait le côté humain, et c'était une personne qui entendait et qui écoutait en même temps. Et voilà, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai pas de moi, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est quelqu'un d'humaniste et toujours souriant, toujours taquin, toujours, mais qui avait ce côté professionnalisme. En tant que délégué du préfet, et en même temps, ce côté humain, et il était vachement proche des habitants. Voilà.
Merci à tous les trois pour ces témoignages sur Patrick Barrault. On se laisse avec une nouvelle pause musicale, et cette fois-ci un morceau de Jeff Buckley, Alléluia.
Thank you. a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Méméga sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM et le canal 8C du réseau numérique terrestre en DAB+. Je rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui quand même, c'est 40 ans d'engagement, portrait d'un acteur de terrain, Pierre Lézot. Donc on va se recentrer un petit peu sur le sujet qui est Pierre. Donc Pierre, pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas où se situe la Désirade, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu cette île et nous dire à quel âge tu es arrivé dans l'Hexagone ?
La Désirade, c'est bien simple. Hein. Il se trouve plein est, à l'est de la Guadeloupe. Une toute petite île, tout à fait charmante, la plus belle des îles au monde, sans doute. 20 km², 1500 habitants environ. L'histoire veut que cette île fut découverte par Christophe Colomb et l'aurait appelée Désirada, l'île désirée, puisque c'est la première terre que l'on voit avant d'arriver en Guadeloupe, mais c'est à son second voyage. Hein. Mais j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé dans les archives de Colomb corroborant cette légende.
Moi aussi j'ai découvert la Désirade, mais plus tard.
Merci pour ton intervention, Saïd. Alors, à quel âge est-ce que tu es arrivé dans l'Hexagone ? En quelle année, on ne va pas demander à quel âge ça.
Oui, j'ai ma coquetterie. Je suis arrivé en 1960. Nous sommes en 2002, je laisse aux auditeurs le soin de faire le compte. Merci. 2002 à Marseille, par la rue de la Palude. Et puisque j'arrive, il y a déjà mon grand-père, chez les Désiradiens, les Antillais, il y a beaucoup de navigateurs, surtout sur la ligne qui faisait l'Afrique, hein, toute l'Afrique, etc. J'arrive donc à Marseille dans les valises de mes parents, mais bien accueilli dans ces immeubles. J'espère que ne fait pas partie des immeubles qui sont tombés, hein, puisque toute la rue de la Palude maintenant est vraiment dégradé, et dans cet immeuble où j'ai eu à apprendre la cuisine, puisqu'il y avait des Arméniens, il y avait des Arabes, il y avait des Antillais, il y avait des Espagnols. Donc je suis un multiculturel de la cuisine.
Pierre. Mais hormis la cuisine, alors on m'a dit, bon, on se connaît un petit peu, donc je sais bien, que tu as suivi une formation universitaire en économie. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Et est-ce que cette formation t'a été utile dans tes choix professionnels et dans ton engagement ?
Alors, dans mon engagement, sûrement pas. Hein. Ce n'est pas la fac, sauf si on peut, par certains moments, à la fac, rencontrer des camarades engagés. Hein. Jean-Marc en a connu, Saïd en a connu, etc. Mais moi, j'étais un petit garçon tout à fait calme et studieux. Ce n'est pas là que sont venus mes engagements politiques. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu de sciences économiques par défaut. Je voulais faire psycho. Et le jour où je vais m'inscrire pour la psycho, je ne dirai pas non plus en quelle année, la fac était en grève et le secrétaire me dit « Nous sommes en grève, on ne sait pas si cette année on va réouvrir ou non. » Donc je me suis dit « Bon, tu ne vas pas rester un an à rien faire et sur le retour, je vais m'inscrire en sciences éco. »
Donc tu es arrivé là par défaut, mais quand même, tu as poursuivi.
Oui, par défaut, mais lorsque chacun va faire l'introspection de sa vie, toute la vie n'est faite que de hasard. À un moment donné, on va dire, tiens, il suffisait, le hasard a voulu que je crois beaucoup au destin, que bon, il fallait que je fasse sciences éco. Donc, est-ce que ça m'a servi pour la suite de ma carrière? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis en sciences éco, je suis doctorant. Donc, oui. Ça fait quelques années que je suis doctorant. Et à un moment donné, je me dis, il va bien falloir que tu trouves quelque chose pour payer tes études. J'étais boursier, c'est pas mes parents qui auraient pu payer mes études, etc. Et je vois une petite annonce l'été 82, dans la Provence, cherchant formateur. Je n'aurais jamais dû lire cette annonce parce que je ne savais pas où j'allais tomber.
Justement, voilà, c'est parfait. Hein. On dirait
oui,
que
oui,
tu
oui, mais je,
guide.
Je sais où
tu voulais. Tu sais très bien où je veux arriver.
Je savais où tu voulais en venir. Voilà. Donc, je lis formateur. Exactement. Donc, je suis inscrit aussi en. Je prépare l'agrégation d'économie. Et je me dis, tiens, peut-être que formateur, enseignant, tout ça, ça doit être la même chose, la même galère, etc. Et donc, j'arrive dans la formation professionnelle en décembre 82 à l'INSTEP, pas très loin d'ici, et sur qui je tombe ? Sur Saïd et Jean-Marc.
Ouais.
Donc,
deux illustres inconnus au comité.
Je n'aurais jamais dû lire. Je n'aurais jamais dû lire cette petite annonce l'été 82. Et comme la vie n'est faite que de hasard, eh bien, nous nous retrouvons sur les bandes de l'ISTEP en décembre 82. Et avec Saïd, je rencontre aussi Radio Gazelle, mais ça sera peut-être une autre histoire.
Oui, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Donc justement, ta formation de formateur, parce que je vais pas... Allez, on va jouer carte sur table. Jean-Marc m'a beaucoup aidé sur cette entrée. Sur le fil conducteur de cette émission. Et donc, il m'a marqué AXAC Formation, le CLAP et Adrafoam. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Non, j'ai oublié tout ça. J'ai oublié tout ça. Ce sont des organismes de formation. Bon, la plupart du temps tournés vers le linguistique. Hein. Donc, que ce soit jeune, adulte. C'est l'AXAG, c'est l'ADRAFOM, etc. Je termine au comité, mais entre-temps, il y a quand même la grande aventure d'Iris Formation. Iris Formation, c'est surtout... on se trouve licencié économique. L'ADRAFOM, c'est un grand organisme de formation, hein, près de 200 salariés qui allaient de Nice en passant par l'Hérault jusqu'à Gap. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'actions, mais l'ADRAFOM était un organisme aux pieds d'argile. Entre les pieds d'argile, parce que l'ADRAFOM ne vivait que de subventions publiques. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure pour pousser un coup de gueule, mais les subventions publiques, tu es à la merci des lubies, des fantasmes, etc., des donneurs d'ordre. Donc le dernier dirigeant qu'on a eu ne savait pas que la puissance de l'ADRAFOM n'était construite que sur du sable, colosse au pied d'argile. Donc l'ADRAFOM disparaît, liquidation judiciaire, etc. Et puis on voulait liquider complètement le secteur de Marseille. Toutes les structures ont repris les anciennes conventions de l'ADRAFOM, que ce soit Nice, que ce soit Gap, que ce soit Arles, etc., ont repris les conventions de l'ADRAFOM, sauf Marseille. Sauf Marseille, où on voulait carrément liquider ce secteur. Il y avait d'autres, futures multinationales qui lorgnaient sur le marché marseillais. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais on s'en fout, on va monter quelque chose, on va repartir à zéro. Et c'est là où j'ai l'idée de monter une coopérative de production, une SCOP. Ce fut sans doute la première SCOP de formation de France, ou la seconde, en tout cas la première SCOP de formation sur la région. Parce que les SCOP, sont des sociétés coopératives ouvrières. Ouvrières, c'était le bâtiment, etc. Et on n'avait pas encore imaginé que le tertiaire puisse rentrer. Et puis, bon, maintenant, ça s'est fortement développé. La plupart des grandes structures de formation se sont installées en tant que société coopérative de production. Et l'idée m'en est venue, oui, si les études m'ont servi à quelque chose, c'est que j'ai enseigné les SCOP, théoriquement, avec tout le mouvement coopératif, tout le mouvement associatif, les fourriéristes, Owen, les Blancs, les Proudhons, etc. Je l'enseignais de manière théorique, avant de mettre ça en place.
Et au sujet de ton engagement associatif, comment est-ce qu'il a démarré ?
Mon engagement associatif a démarré, j'avais 13 ou 14 ans, avec l'Habitag. Moi, à 13-14 ans, je n'aimais que le football, je l'ai longtemps aimé par la suite, Mais mon père me dit, parce que nous avions une épicerie rue 9 Sainte-Catherine et la Mittag était juste en face de l'épicerie. Et le samedi après-midi, mon père me dit, bon, comme je vois que tu n'as rien à faire, il faudrait que tu ailles aider les compatriotes. Et à l'époque, la Mittag donnait des cours de français aux dames. C'était surtout des dames qui préparaient sur le concours d'infirmières.
Bon, à Mittag, dis-nous ce que c'est, parce que Lily ne veut pas te poser la question parce qu'elle le sait, moi je ne sais pas.
Oui, alors la Mittag, c'était une association qui regroupait les Antillais sur Marseille. C'était l'association des travailleurs antillo-guyanais, rue de Sainte-Catherine. Donc, je vais donner quelques cours de français les samedis après-midi au lieu d'aller jouer au football à ces dames qui préparaient les concours de la fonction publique, le premier niveau, hein, le niveau C de la fonction publique. Voilà mes premiers pas en formation.
Oui, mais à l'époque, bonjour, nous étions inconscients, parce que la Mittag, on ne savait pas que c'était une succursale aussi du gouvernement de Debré, une directive de Debré, et la Mittag était un organisme qui favorisait la migration des originaires d'outre-mer. Sachant qu'il y a eu différents facteurs qui ont expliqué cela, mais à l'époque nous étions jeunes, donc adolescents, et on ignorait un peu le rôle joué par cet organisme, cette officine gouvernementale.
Oui, à 14 ans je me posais, je te prie de croire, aucune
question de ce genre.
Voilà,
on l'espère bien.
Non mais tu aurais tout à fait raison. La Mittag est relié tout à fait avec les méfaits du Bibindome. Vous connaissez, vous avez vu des reportages, etc. Des méfaits, c'est, comment dirais-je, de déplacement volontaire des populations mis en place par Debré. Ça concernait les quatre vieilles colonies, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Donc il y avait une sorte d'explosion démographique, il y avait aussi une explosion politique. Les grands mouvements politiques d'indépendance, d'autonomie viennent de cette époque-là. Et le gouvernement, pour décapsuler un peu la cocotte minute, n'a rien trouvé de mieux que de créer le Bibindome pour déplacer les populations des Antilles, Guyane, Réunion, etc., vers la France. Et puis, comme si ce Bibindome n'avait pas été un très grand scandale, il y a eu le scandale du déplacement des orphelins de la Réunion vers la Creuse, qui là aussi relève presque du crime.
Alors, on va revenir là-dessus. Jean-Marc vient de prendre la parole un petit peu avant. Donc, Jean-Marc, Saïd et Pierrot, c'est un trio. Apparemment, il y en avait un quatrième.
Oui, il y avait notre ami Djalil.
Djalil. Et donc, mon petit doigt m'a dit que Saïd vous a amené à participer à la formation d'une radio libre associative, Radio Gazelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, Saïd, on t'écoute.
Ben, donc, tout à l'heure, Pierre disait qu'on était ensemble dans une formation pour devenir formateur.
Formateur.
Parce que vous savez qu'il y a des formateurs, il y a des formateurs de formateurs, et des formateurs de formateurs de formateurs. Oui. Nous, on était au premier niveau, donc c'est là qu'on s'est rencontré.
Pardon de te couper, sans savoir, en tout cas pour ma part, où je mettais les pieds. Hein, parce que moi, je cherchais du pognon pour mes études.
Bon, moi, j'ai terminé les études, donc j'allais être bientôt prof, mais en attendant, il fallait, comme tu dis, payer un peu la fin des études. Et il y a eu, on a reçu un immigré, on a contribué à intégrer Jean-Marc qui est arrivé de Martinique. Et donc je les ai un peu écoutés dans la formation. Bon, je vais dire les termes que j'ai employés à l'époque. Je dis, pour des Antilles, vous n'avez pas l'air trop con, donc il faudrait que vous veniez avec nous. On fait une radio qui s'appelle Radio Gazelle, donc on veut essayer de rassembler un peu des gens de différents horizons, notamment culturels. Donc je vous embauche.
Oui, c'est tout à fait ça. Le terme, vous n'avez pas l'air trop con pour des Antilles, c'est gravé dans le marbre, hein. Je veux dire que c'est exactement le terme qui a été employé. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Non, mais pourquoi j'ai employé ça? Parce que bon, les Antillais que je connaissais, c'était que Zouk et c'est tout. Quoi.
Oui, non. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Après nous avoir traité de pas trop con, il y a eu l'épisode où, bon, bien entendu, Radio Gazelle existait déjà d'une manière anarchique, indépendante, parce que c'était bien avant 81. Je crois que Gazelle a commencé à émettre dans les années 80, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais mis à part le fait que tu nous avais rencontrés et que vraiment tu cherchais à embaucher quelques entiers pour compléter la panoplie des communautés qui formaient Radio Gazelle, il y avait quand même notre ami Mayout qui faisait déjà des émissions sur les zones de la Gazelle.
Oui, effectivement, sauf que Mayout, c'était l'artiste, c'était la littérature.
Et nous.
Et vous étiez un peu plus politique.
Bon, voilà. Mais Radio Gazelle, on pourrait en dire des mille et des cents.
Bon, donc, ça sera peut-être l'objet d'une autre réunion, tu as bien raison. Et quand on parle de Radio Gazelle, on ne peut omettre l'engagement que vous avez eu dans l'organisation de la marche de 83 contre le racisme et l'égalité des droits. À l'issue de celle-ci a émergé le collectif Mémoire en Marche, qui existe toujours. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors là, tu nous as fait un raccourci de 30 ans, là.
Bah alors, je te laisse prendre le...
Saïd.
Oui, effectivement.
Oui, effectivement, ça... Le monde avance rapidement. C'est vrai que l'expérience de Radio Gazelle, c'était vraiment une expérience associative très intéressante, c'est-à-dire que des gens qui disaient on veut faire une radio, mais on ne veut pas être avec tel pays, on est multiculturel. Donc, contrairement à Radio Juive Marseille, qui eux étaient affiliés à l'État d'Israël, donc ils avaient plein d'argent et tout, nous on disait on va vivre avec quelques petites subventions et nous, nos cotisations. Donc et donc avec une liberté totale et pas du tout affilié à tel ou tel pays et avec un exemple de démocratie folle. C'est-à-dire que on faisait des réunions tout le temps pour chaque décision. Les réunions pouvaient durer des heures.
Oui. Je m'en souviens tout à fait. Hein. Là, la démocratie participative, on ne pouvait pas bouger une miette ou prendre la décision, par exemple, de changer cette marque de bouteille d'eau sans qu'il y ait une réunion qui durait des heures et des heures. Mais je vais rassurer, la bouteille d'eau et le changement du nom de la bouteille d'eau n'étaient que prétexte pour nous retrouver quasiment tous les soirs en réunion. Mais on ne faisait pas que parler de la bouteille d'eau.
Mais peut-être vous pourrez rappeler aussi tout l'engagement qui est de Gazelle, des camarades de Hannister, de Radio Galère qui existait, puisque c'était nos concurrents et amis à la fois, n'est-ce pas? Donc nous rappelons cela. Donc il a contrôlé tous les crimes racistes aussi. Donc il y a eu tout un mouvement, des émissions, avec des interrogations et participation à certaines commissions sur l'extérieur et autres, n'est-ce pas, à l'époque?
Oui, enfin de... Par sa nature, Radio Gazelle, c'était une radio antiraciste et qui n'était pas seulement antiraciste avec des mots, mais antiraciste de manière active, c'est-à-dire qu'on a participé un peu à beaucoup de choses. Pour revenir un peu sur le quartier, quand il y a eu malheureusement la mort de Lawari Ben Mohamed, on était ici sur place, on était venus, on a participé au mouvement. Et donc il y avait un travail qui se faisait sans arrêt. Donc, et c'est vrai que grâce à l'outil de Radio Gazelle, qui à l'époque, bon, c'était vraiment très important parce que les plus jeunes ne peuvent pas imaginer les choses, mais que quand on a démarré Radio Gazelle, il y avait des gens qui téléphonaient, des gens plus âgés que nous qui étaient en pleurs, qui disaient pour une fois, j'entends parler de nos problèmes et j'entends des chansons, des musiques du pays d'origine, alors que bon, donc la télé, les radios françaises étaient très très sympas, sauf que on leur dit que c'était interdit avant que démarrent les radios libres.
Oui, une radio libre dans tous les sens, hein, parce que bon, on parlait de la musique, etc., où le public était tout à fait demandeur parce qu'il ne pouvait pas entendre nulle part ailleurs. ce type de musique, mais en même temps, nous étions une radio très, tu l'as rappelé tout à l'heure, très militante et très engagée. Tu parlais tout à l'heure de Radio Galère, nos amis, nos frères, nos cousins. À un moment donné, boulevard des Dames, nous étions dans le même, dans les mêmes immeubles. Au dernier étage, tu avais la CIMAD. En dessous, tu avais Radio Gazelle et encore un peu en dessous, Galère. Donc, nous avons y compris mené des combats ensemble en ce sens. Tu as parlé de la marche tout à l'heure. Nous n'avons pas été initiateurs de la marche. Je ne sais pas quel est le mot qui a été employé, mais quelquefois, on pourrait accuser certains de ne pas avoir marché, etc. Saïd, il était très présent là-dessus, parce que je crois qu'il a eu fait quelques... C'est pas je crois, j'en suis même sûr, il a fait quelques étapes jusqu'à Paris. Mais nous avons servi, de diffusion des émissions. Il n'y avait pas encore des radios portables. Les gars se dépêchaient pour donner leur fil d'actualité par les cabines téléphoniques, qu'il fût à Valence, Saint-Étienne ou à Strasbourg. Donc nous avions, de mémoire, nous avions quasiment deux ou trois fois par jour des relais d'émissions par rapport à cette marche.
Pour revenir un peu à la marche, ça a démarré à Lyon. Villeurbanne, donc les Minguettes, etc. Donc, mais dès que le projet a commencé à émerger, les réunions sont faites un peu partout, et à Marseille, notamment à Marseille. Donc moi j'étais un de ceux qui ont participé au nom de Radio Gazelle à la préparation du démarrage de Marseille. Et donc on a eu le débat par où démarrer. Finalement, on avait décidé de démarrer de la Cayolle. Alors que la plupart d'entre nous étaient plutôt des quartiers nord, on a démarré de la Cayolle parce que malheureusement il y avait eu un attentat raciste à ce moment-là, donc un enfant gitan. Et donc c'est ça que symboliquement on a décidé de démarrer de la Cayolle.
De la Cayolle. Et il est intéressant.
Les camarades aussi, Delors et autres qui sortaient de Lyon, de Villeurbanne, qui était à l'initiative de cette marche et réalisait pas mal d'émissions avec eux, si vous vous souvenez bien.
Oui, non, mais il y a eu cette préparation. La marche, c'est octobre 83. Il y a eu quasiment 6, 7, 8 mois de préparation en amont de cette marche. Lorsque tu dis qu'effectivement la marche démarre de la Cayolle, il faut savoir que la marche est passée aussi par ici. Il y a eu une halte du côté de Bassès avant de monter sur Aix.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand les choses ont commencé à prendre tournure, et notamment quand on s'est rapproché du mois de décembre, c'est-à-dire l'arrivée à Paris, il y a eu l'organisation de cars qui sont montés à Paris. Et il y avait beaucoup de gens ici, d'associations de ce secteur-là, qui ont organisé des cars. Donc, il y avait Zoubida, Bagna, etc. Il y avait la Sûre à l'époque.
Oui. Et je veux rappeler que peut-être c'était presque à l'arrivée de Paris, de triste mémoire, l'affaire du train Vintimille, où un jeune Algérien, je crois, se fait défenestrer. Ça, c'est venu perturber la marche proche de la rivière Paris.
Oui, non, c'est sûr que c'était un élément fort, parce que justement, une des raisons pour lesquelles la marche était faite, c'était contre les crimes racistes. Et donc, pendant la marche elle-même, il y a eu ces apprentis ou des légionnaires qui étaient déjà confirmés.
Qu'importe, ils étaient légionnaires dans la tronche des gens.
Qui ont jeté un jeune qui n'était même pas d'ici, qui venait d'Algérie, Grimsy. Ils l'ont jeté du train.
Et un autre droit, c'était l'égalité des droits aussi. Il faut rappeler, ça faisait partie des fondamentaux. À savoir qu'il y avait ce qui existait, c'était la double peine, entre autres. Donc, différentes personnes qui étaient là depuis des années n'obtenaient pas de nationalité algérienne, notamment n'obtenaient pas la nationalité française. C'était un des combats qui était mené, une des revendications qui était à ce moment-là aussi.
Même si, alors, si je reviens un peu avant, c'est en 81. Juste avant l'élection de Mitterrand, il y avait eu une grève de la faim, encore une fois à Lyon, et qui contre la double peine et contre l'expulsion des jeunes issus de l'immigration. Donc ça, c'était un élément important. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, c'est une des mesures importantes qui ont été prises, c'est-à-dire de dire que c'est pas possible d'expulser des jeunes qui sont nés ici ou qui ont toujours vécu ici. Donc sinon pour la marche, dont tout le monde sait que ça s'est terminé le 3 décembre, et après il y a eu un film avec Jamel Debbouze, etc. Mais je crois qu'il faut bien rappeler les choses, c'est que certains ont voulu l'appeler marche des beurs, et ils l'ont dit et redit, et donc le nom c'est marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Donc c'est un certain nombre de récupérations qui ont eu lieu, sans parler de la catastrophe de SOS Racisme.
SOS Racisme.
Je préfère ne pas en parler.
Oui, c'est un autre débat. De toute façon, toutes les photos, le mot d'ordre, il était tout à fait simple, hein, parce qu'il y a encore des photos, des films qui... On voit encore cette banderole qui précède cette marche. C'est contre le racisme et pour l'égalité des droits. Il n'y avait ni beurre, ni quoi que ce soit, etc. Et de toute façon... parmi les marcheurs, il y avait des jeunes et des moins jeunes qui venaient de tout horizon. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui était important, c'était pas les marcheurs, je crois que c'était 25, c'est tous les gens qui sont venus. Et donc, les marcheurs avec qui j'ai un peu marché, avec qui on parlait, ils disaient qu'ils ont découvert la France, et donc il y avait beaucoup de solidarité, des personnes âgées qui n'avaient jamais vu de jeunes issus d'immigration, qu'ils ont reçu de manière fraternelle. Et c'est pour ça que c'est très important de dire que c'est pas marche des beurs, parce que ça n'a aucun sens de dire ça.
Oui.
Ça n'a aucun sens pour ceux qui ont initié la marche et qui l'ont faite, mais pour ceux qui après l'ont instrumentalisé et tenté de dépolitiser ce mouvement, et ça on comprend très bien pourquoi SOS Racisme après a été favorisé par les médias et par des subventions énormes. Comme le dit fort bien Saïd Bouamama, c'était une façon non seulement de dépolitiser, mais aussi de donner un côté moral à une marche qui était éminemment politique. Le mot d'ordre, c'était quand même l'égalité des droits entre travailleurs français et travailleurs migrés. Si ça, c'est pas politique, je sais pas comment on peut appeler ça. Et contre le racisme, parce que la question du racisme dans ce pays, c'est une vieille histoire, malheureusement.
Oui, pour aller dans ton sens, les marcheurs, à un moment donné, ils étaient près des usines, je ne sais pas si c'était Renault ou Peugeot, ils sont allés justement en délégation pour voir les gens qui étaient en lutte.
Oui, il faut rappeler que toute cette marche aussi a généré au sein de Radio Gazelle différents débats. La question qui se posait à un moment donné, c'était à savoir pourquoi les jeunes issus des diverses migrations n'investissaient pas le champ politique, étaient tous dans le monde associatif et social. Ça fait partie d'une interrogation, et il y avait certaines velléités pour que certains jeunes puissent se présenter, notamment à la mairie, à la mairie de Marseille notamment. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Oui, non, mais ça c'était ensuite des choix personnels, mais je puis témoigner quand même qu'après cette marche, nous avons eu, ça s'est ressenti même ici et dans tous les quartiers, il y avait un appel d'air quand même à la création. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont pris en main, il y a beaucoup d'associations qui se sont montées, et je crois que, bon, je passe aussi cette funeste époque de ce racisme, mais on pensait que l'on pouvait faire avancer les choses. Pensait que les choses allaient pouvoir avancer, qu'on avait mis le pied dans quelque chose et qu'on allait avoir petit à petit la reconnaissance qui nous était due. Malheureusement, cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Pour terminer sur cette affaire d'Amache, parce que bon, on va aborder le 40e anniversaire, 40e anniversaire de la marche. Il y aura des actions qui seront montées et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je ne peux pas terminer sans penser à notre cher ami Rachita, qui nous a, avec sa chanson Douce France, c'était un peu la chanson qui accompagnait un peu cette marche et qui nous a accueillis à Paris le 3 décembre, c'est ça ? 3 décembre.
Avec les fameuses fêtes multiculturelles. Mais, hein, ce fut une période de ces aussi mémorable. S'il y avait une petite pause musicale.
Exactement. On va se laisser avec une petite pause musicale.
Ça, son poste.
Avec Akio Mwabout.
On l'a dit, on me la prend taxi. Nom la terrible jari, les vrais entrées en dépôt là, pas vrai personne n'en dit dans la. Toto, en premier bureau,
confier, partez là.
Toto, en deuxième bureau,
secrétaire, partez là.
Toto, en troisième bureau, c'est là, nom l'a constaté. Entreprise là, déjà voyagé. Oh là, l'État t'es sorti, plus saisi tout outils.
Confiez-moi.
Oh là, l'État t'es sorti, plus saisi tout outils, mes amis.
Confiez-moi.
Oh là, l'État t'es sorti, plus saisi tout outils.
Confiez-moi.
Sorti en vital, moi, rentre en fouillé, tu
peux.
La semaine d'être passé, c'est bougie, moi, caille limé. L'élément passé, communication coupée.
Confiez-moi.
Moi pas ni l'argent encore.
Confiez-moi.
Moi pas ni dollar encore.
Confiez-moi.
Moi pas ni caillasse encore.
Confiez-moi.
On l'a dit, non, mais Béjari, l'envoyé en payant des polas, pas vrai personne n'en dit dans la. Toto, en premier bureau,
confier, partez là.
Toto, en deuxième bureau,
secrétaire, partez là.
Toto, en troisième bureau,
contrat, partez là.
Et c'est là, non, l'a constaté, entreprise l'a déjà voyagé, ou là, l'état des sorties. Saisis tout outil, mes amis.
Confiez-moi.
Voilà l'état des sorties. Plus saisis tout outil.
Confiez-moi.
Sécurité sociale.
Confiez-moi.
Priez les syndicats.
Confiez-moi.
Priez les avocats.
Confiez-moi.
Moi, banni l'argent encore.
Confiez-moi.
Moi, banni chéqué encore. Messieurs, là, en bon passant, bon balai, c'est pas tout à fait bon espoir. Action.
Confier.
pas bon pas son pas parler, c'est parce qu'on fait bon exploitation.
Pompier,
les syndicats, oh.
Pompier,
les avocats, oh.
Pompier,
moi banni l'argent encore.
Les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec vous sur les ondes de Radio Galère jusqu'à 15h, toujours en compagnie de notre invité Pierre Lézot. Donc on l'a bien compris, il y a eu tes années formateurs, il y a eu ton engagement associatif et ton engagement au sein de la marche. Et parle-nous un petit peu de tes années et ton engagement sur les quartiers populaires de la ville de Marseille, s'il te plaît.
Alors là, on vient sur... c'est un long processus, hein, je veux dire. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, tiens, tu es plus ou moins engagé sur les quartiers, etc. Mais à un moment donné, j'ai pu rencontrer des camarades ayant cette volonté de faire évoluer la vie dans les quartiers, de travailler sur le vivre ensemble, sur le mieux vivre, etc. Donc on peut commencer par toutes les actions menées dans la politique de la ville. Bien que ce n'est pas la politique de la ville, c'est un titre, mais cela n'a pas commencé maintenant. Hein. La transformation des quartiers date depuis peut-être ces années 80, 83, etc. Les lois du Bedou, toutes les lois qu'on a essayé de mettre en place pour transformer y compris la vie dans les quartiers, mais aussi l'environnement. C'est-à-dire, en ce moment, c'est l'ANRU. Donc, cette politique de la ville, en disant que bon, les quartiers ont des besoins, ont des problèmes tout à fait spécifiques, on va mettre en place une sorte de verrue qu'on appelle la politique de la ville, qui au départ n'était là que pour venir là où ne venait pas le droit commun, c'est-à-dire d'ajouter des actions positives dans les quartiers. Ce qui s'est passé dans cette stratégie, on nous a repliés en quartier prioritaire. La politique de la ville, c'est un financement qui n'est pas énorme, etc. Et le droit commun a dit, bon, puisque vous avez votre financement propre, nous, on se retire carrément des quartiers. Donc ça, cette politique de la ville, mais nous avons eu l'occasion de le dénoncer à plusieurs reprises, a fait et fait toujours plus de mal que de bien aux quartiers. Hein? Parce que, bon, vous avez vos petites actions, vous avez vos petits problèmes, on saupoudre un peu avec de l'argent public pour pouvoir améliorer et transformer les choses, le droit commun, lui, se replie, etc. Alors qu'il faudrait plus de droit commun et plus de politique de la ville. Donc, à un moment donné, j'avais eu l'occasion d'écrire ou de dire il faut que cette politique de la ville disparaisse pour que l'État prenne en charge les problèmes logement, sécurité, école, tous ceux qui relèvent du domaine régalien de l'État. Pourquoi nous mettre ici quelque chose qui s'appellerait politique de la ville, qui ne fait que stigmatiser encore plus les gens qui habitent ces quartiers. Il me vient en mémoire, par exemple, les luttes, je dis les luttes parce que la plupart des personnes sont ici, Karima elle est là, etc. Je n'en veux pour preuve que les actions symboliques que l'État essaie de mettre en place pour travailler dans ces quartiers. Je veux parler de la grande lutte. Je dis grande parce que on a renvoyé Marseille 2013, c'est capitale de la culture, assez pénate. Qu'est-ce que voulait faire Marseille, capitale de la culture ? C'est-à-dire faire venir dans les quartiers des groupes de, peut-être excellents, ouais, des groupes excellents de l'extérieur des quartiers, etc. Charge pour nous de rameuter le public pour qu'ils puissent mettre en place leur action. Donc on a dit non, c'est pas normal. La capitale de la culture doit irriguer à l'intérieur même du quartier, les forces vives de ceux qui vivent et qui travaillent dans les quartiers. Nous avons des groupes de théâtre, nous avons des jeunes qui sont dans le dans la musique, qui sont dans le cinéma, qui sont que sais-je encore. Nous n'avons pas besoin de symboles. Et finalement, les bilans ont été tirés de Marseille capitale de la culture. Ça n'a servi que d'aubaine à des structures et des groupes qui avaient déjà pignon sur rue. Donc je me souviens avec Zora en disant bon, remballé, ici Marseille capitale des cultures ne mènera aucune action vitrine dans le quartier.
Non mais plus encore, alors ce qui était prévu chez nous, vous en souvenez bien, c'était un jardin éphémère. Ouais. Il était engagé, je ne sais plus, 200 et quelques mille euros, il me semble.
Oui, c'était des sommes tout à fait faramineuses.
Oui, exactement, pharaoniques.
On voulait faire comme symbole de la culture, Marseille capitale de la culture 2013, un jardin éphémère qui devait être juste en face de moi.
En face de nous, il y a toujours un terrain vague, on est en 2022, quoi, ça fait 9 ans.
Et je me souviens de, du pauvre, comment il s'appelle ?
Sid,
notre ami Sid, trop tôt disparaît, qui, parce que c'était en bleu, en blanc, je ne sais pas, il y avait des croix rouges, etc. Et Sid disait, ben, ils veulent nous faire un cimetière en face, là-dessus.
Voilà, et comme tu...
Vraiment, ce qu'ils nous ont tenté de nous vendre, c'était incroyable. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans leur proposition. C'est effectivement de valoriser un travail artistique sur ce territoire avec une compagnie dont j'ai oublié le nom malheureusement, pour un jardin éphémère sur le terrain du P, et donc avec des moyens financiers forts, y compris de la politique de la ville. Mais puisque la politique de la ville abondait en termes de finances pour ce projet, elle le retirait d'associations culturelles du territoire. Ça, c'était pas possible pour nous, et ça a déjà été le premier le premier couac de cette présentation. La deuxième, moi j'ai des souvenirs où les artistes ont tenté de présenter leur démarche auprès d'habitants et d'associations de locataires, et il y a toujours un côté très pragmatique et très terre-à-terre des associations de locataires qui ont dit nous on n'a rien contre la culture, mais aujourd'hui le problème dans ce territoire c'est la question de l'emploi et de la formation. Nous, on est prêts à vous suivre, sous réserve que nous, on est en contrepartie 5 jeunes et 5 adultes qui soient formés, notamment à des métiers qu'ils pourront après exercer. Et une idée qui avait germé comme ça, et je pense à toute intelligence de la part des représentants des associations de locataires, c'était une formation à l'entretien des espaces verts, parce qu'on savait que ce territoire faisait l'objet d'un PRU et que dans ce cadre du PRU, dans tous les PRU de Marseille, des terrains privés appartenant aux bailleurs allaient être rétrocédés à des collectivités et certains terrains allaient devenir des jardins. Donc il y avait cette idée, mais pas que ça, il y avait aussi d'autres choses. Et puis en fait, on nous a pris pour des uberlus, puis on s'est dit, ben, puisqu'on est uberlus, vous allez faire sans nous et surtout ne rien faire dans ce territoire.
Peut-être vous pourriez rappeler comment a émergé cette idée de mobilisation ou de mener des actions collectives avant que puisse prendre naissance le groupe de veille.
Rappelez. Alors moi je voudrais quand même un peu parler de Pierre Lézot.
Oui, carrément. J'allais y venir, mais
oui,
Jean-Marc
oui, est pressé. Mais Pierre Lézot fait partie intégrante de cette histoire-là.
Complètement.
Jean-Marc est pressé, je voulais que vous nous racontiez.
Parce que j'avais écrit un petit truc ce matin.
Nous t'écoutons.
C'est très dur. Puis après je me suis dit, bon, puisque je suis entre guillemets la passeuse de mémoire de ce territoire, donc j'ai essayé de raccrocher Pierre à ce territoire évidemment. Donc j'ai intitulé ce petit texte Pierre Lézot, l'engagement chevillé au corps. Ma rencontre avec l'homme engagé remonte à la période de 2002-2003. Il est alors président du comité Maméga. À cette période, je me vois confier l'écriture d'un livre sur Monsieur Thyr, épicier de son état, depuis son installation dans le grand bidonville de Saint-Barthélemy jusqu'à son décès en 1996. Monsieur Thiers sera le fil conducteur pour raconter l'histoire du grand Saint-Barthélemy, notamment au travers de multiples portraits d'hommes et de femmes engagés, tout particulièrement sur la question du cadre de vie des habitants de ce territoire. Nous nous rencontrons à nouveau au début des années 2010. Il occupe cette fois-ci le poste de coordinateur au sein du comité Maméga. Le Grand Saint-Barthélemy est alors en plein chamboulement avec deux travaux urbains qui vont modifier considérablement le paysage du quartier. D'abord la couverture du tronçon de la Île de Nord, l'avenue Salvador Allende, et le programme de rénovation urbaine de Picon, Busserine et Saint-Barthélemy 3. Nous sommes nombreux parmi les acteurs associatifs du Grand Saint-Barthélemy à vouloir constituer un collectif pour obliger les différents protagonistes de ces monstrueux chantiers à écouter la voix des habitants. Très rapidement, Pierre Lézot est choisi pour être le porte-parole de ce collectif des habitants et des associations du Grand Saint-Barthélemy. Il accepte ce titre et l'occupera jusqu'en 2014. Il a su manier le verbe avec panache, étant même au-dessus de la mêlée. Ses interlocuteurs, institutions, bailleurs, représentants de grands groupes de la construction et tant d'autres, se rendent rapidement compte de ses qualités intellectuelles et ses connaissances des dossiers. Pierre Lézot a eu à cœur tout le long de ce mandat de défendre l'expertise des habitants, mais aussi une vision globale du Grand Saint-Barthélemy, vision co-construite avec l'ensemble des acteurs associatifs du quartier, de Picon au Mail et des Flamands à Fond Vert. Je garde des souvenirs savoureux et jubilatoires des différentes rencontres, admirant le ton posé des propos incisifs de Pierre, déstabilisant son auditoire, son humour pince sans rire et ses références aux grands maîtres de la littérature antillaise. Pierre, permets-moi de citer tes compagnons de route de ce collectif d'habitants du Grand Saint-Barthélemy. Évidemment, tu as parlé de Sidamed, trop tôt disparu, de l'association de locataires de la Busserine, Zora Berich, alors représentante de l'association de locataires de Saint-Barthélemy 3, Émile Onolfo, représentant de l'association de locataires de Picon, Fatima Mostefaoui, représentant de l'association de locataires des Flamands, Ahmed Manessour, représentant de l'association de locataires de Fontvert, et tant d'autres. C'était une sacrée équipe que tu avais là, Pierre.
Pierrot, c'est que quand il y avait des réunions, les gens en colère, il fallait que quand tu prenais la parole, il y avait un silence incroyable. Tout le monde t'écoutait.
Oui, Karima, bon, bien entendu, je te remercie pour ce mot bien tourné de compliment. Mais effectivement, ce n'est pas Pierre qui est à l'honneur, mais c'est plutôt le combat qui a été mené depuis les années que tu as précisé, avec un collectif tout à fait soudé et déterminé. Soudé et déterminé, parce que nous n'étions pas adeptes de la violence, etc. Mais quelquefois, il fallait sans doute monter le ton et mettre en place des actions comme... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça ? Bon, il y a des actions coup de poing. Il y a eu ce qui s'est passé en 2013 avec Marseille Capitale de la Culture. Mais il y a aussi ce rond-point-là que nous avions...
Pierre Paraf.
Ce rond-point que nous avions occupé. Et il a fallu une seule journée ou deux d'occupation pour que nous soyons reçus par trois préfets. Il y a eu le préfet de la région, il y a eu le préfet à l'égalité des chances, et il y avait Nunez, le préfet de police. Ils étaient là tous les trois. Et je me souviens, je crois que c'était Karima qui avait pris la parole, tu avais été désigné à l'unanimité pour ouvrir les débats devant ces préfets en disant « mais nous sommes venus pour avoir des résultats ». Nous n'étions pas venus pour discuter, etc., etc. Et, mais je ne sais pas si c'était cette réunion ou un autre, ou si c'était le préfet Rousset qui avait dit « Oui, mais si vous commencez comme ça, moi, j'arrête de suite la réunion. » Bon, tu n'arrêteras rien du tout, puisque nous étions venus avec des habitants. Il fallait aller jusqu'au bout. Donc moi, je ne suis que la très petite, parce que oui, c'est sans doute mon meilleur titre de gloire, porte-parole du collectif du Grand Saint-Barthélemy, parce que ce porte-parole-là, c'était uniquement pour donner un peu plus d'écho à ce, au désir des habitants. Et donc,
je veux dire que quand même, il y a eu une adhésion autour de ta personne, oui. Parce que les gens te connaissaient, en tout cas comme coordinateur du comité Maméga. Il y avait aussi, il faut être honnête, il y avait aussi les qualités que tu avais et qui ont été reconnus par tes pairs dans ce territoire. Tu as des connaissances intellectuelles fortes, tu lis les dossiers, tu les approfondis, parce que tu sais qu'en face, ils vont nous titiller sur certains éléments. Donc, tu anticipes toute situation pour inverser la tendance. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et en plus, tu mettais de la poésie, et parfois un peu d'ironie mordante, et c'était extrêmement savoureux. Et j'ai une nostalgie de cette période, très honnêtement. Parce que effectivement, les acteurs du territoire étaient soudés, et comme je l'ai dit, sur l'ensemble du Grand Saint-Barthélemy.
Oui.
Voilà, du Mail à Picon et de Fontvert au Flamand, en passant par toutes les autres cités qui constituent ce territoire-là. Et je trouve que c'était, je pense, les années les plus fortes, en tout cas de mobilisation. Tu as été aussi le représentant. Moi, je me souviens de cette rencontre avec Mars et Rénovation Urbaine au parc des Égalades, où on était tous derrière toi, où tu as pris en main, alors c'est ça un porte-parole, ça ne veut pas dire forcément qu'il est à l'initiative, mais il est là pour donner un écho plus puissant, et puis il faut quelqu'un qui incarne aussi ces mobilisations, ces mouvements. Quand tu as dit, au nom de tous les gens qui étaient autour de cette table, à M. Binet, alors représentant de Marseille Rénovation Urbaine, il n'y aura pas une grue qui rentrera dans ce quartier tant qu'il n'y a pas un terrain dédié pour la construction de la mosquée, parce que c'était une revendication juste et légitime de nos Chibani, qui partaient petit à petit. C'est des moments, je veux dire, c'est l'histoire de ce territoire. Et tu as été un des protagonistes de cette histoire-là.
Oui, oui, sans doute. Mais je jouais, on ne va pas se renvoyer des compliments, ce n'est pas l'habitude de la maison, mais je jouais quand même sur du velours. Parce que ce territoire-là avait quand même une habitude de lutte et de travail en coopération. Je dis « avait » parce que je ne peux pas oublier, par exemple, le collectif citoyen logement et cadre de vie qui a précédé le collectif du Grand Saint-Barthélemy. Donc je me suis dit tu as du monde avec toi. Lorsque tu vas prendre la parole, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière toi. Il me vient cette blague, c'était au cours d'une manifestation, je ne dirais pas quel peuple en France. Il y avait une grande manifestation pour demander du travail. Donc des dizaines et des dizaines de personnes étaient en train de crier « Moi je veux du travail, moi je veux du travail, moi je veux du travail ». Très soudés en groupe devant la préfecture. Et à un moment donné, le préfet en interpelle un. Il lui dit « Toi, viens ici, j'ai du travail à te donner ». Et la personne dit « Mais pourquoi moi ?» Voilà, donc ça me fait penser à quelquefois dans des combats, quand tu te retournes, il n'y a plus personne. Ce n'était pas le cas ici. On a fait des cahiers blancs, on a fait des revendications, on a fait des conférences publiques à la MFA, ça marchait d'un seul pas. Si je peux continuer avec ce collectif, parce que c'est ainsi qu'on l'avait nommé, hein, collectif du Grand Saint-Barthélemy, lorsqu'il y a eu la loi Lamy de 2014, mais tu t'en souviendras très bien parce que tu étais à mes côtés, lorsqu'il y a eu la loi Lamy de 2014, je n'ai eu cesse de demander à la préfecture, c'était la préfète Lajus à l'époque, je n'ai eu cesse et il y avait, comment tu l'appelles, Madame Fructus qui représentait la ville de Marseille, je n'ai eu cesse de dire, mais qu'est-ce que vous allez vous tracasser pour créer le collectif Les Conseils Citoyens ? Nous avons une structure qui fonctionne déjà, qui a son habitude de lutte et où nous sommes très soudés. La préfète Lajus n'en a pas voulu. Tu te rappelles, on était en préfecture, on avait dit, mais transformer en conseil citoyen ce collectif qui a déjà pignon sur rue.
Et
un enracinement. Et vous nous connaissez, vous savez très bien que ça va marcher.
Justement parce qu'elle vous connaissait, qu'elle ne veut pas que ça marche.
C'est ça. La préfète Lajus et Mme Fructus ont décidé que non. Ils allaient jouer un truc tout à fait bidon, de tirer, je pourrais en parler beaucoup plus tard après, de tirer au sort les gens, parce que la préfète me l'a dit. Elle m'a dit, on ne veut pas de collectif déjà existant, on veut que de nouvelles personnes émergent. Donc on ne va pas créer. 3 ans après, beaucoup de collectifs se sont transformés en conseil citoyen. Mais comme dans beaucoup de choses, nous étions précurseurs. Nous arrivons à la création des conseils citoyens à l'époque où la ville de Marseille n'en veut pas. Il n'y a pas que la ville de Marseille qui n'en veut pas, il y a beaucoup de collectivités qui n'en veulent pas. Nous avons été les derniers conseils citoyens à se créer par injonction du préfet, en disant la politique de la ville va se mettre en place et les conseils citoyens doivent donner leur avis sur cette politique de la ville. Donc on a monté des conseils citoyens à la va-vite, n'importe comment, pour pouvoir justifier la mise en place du contrat de ville, et ça a donné ce qui existe maintenant, des conseils citoyens vidés de toutes leurs substances, d'autres qui disparaissent, d'autres qui font ce qu'ils peuvent, mais par la volonté même de l'État. Si ce que nous avions proposé en préfecture, de transformer le collectif du Grand Saint-Barthélemy en conseil citoyen, nous aurions été sans doute, des choses auraient avancé, des combats auraient été menés, et sans doute des conseils citoyens les plus puissants de France.
Merci pour vos interventions et ces rappels sur les conseils citoyens. On va se laisser une nouvelle respiration musicale avec Tracy Chapman, Talking About Revolution.
Don't you know we're talking about a revolution? It sounds
like a whisper.
Don't you know we're talking about a revolution? It sounds
like a whisper.
While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds
like a whisper.
Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking
les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy, avec vous sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie de notre invité Pierre Lézot. Et hors ligne, Jean-Marc nous parlait d'une action qui a été phare à un moment donné, qui était coportée par le Centre Social L'Agora et par le Comité Maméga à l'époque, où Karima, tu étais directrice du Centre Social, et Pierre, coordinateur, on peut dire directeur du Comité Maméga, c'est exactement la même chose. Et c'était les banquets de Fanon. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ?
Avant que d'en venir au banquet de Fanon, il faut que j'épuise, sans qu'on ne puisse épuiser, cette affaire de politique de la ville. Comme dans beaucoup de choses, nous avons été grugés. Dans la mesure où, pour la loi Lamy, nous l'avions rencontré à Paris, etc., avant même que cette loi existe, et les conseils citoyens ont été créés à l'intérieur donc de cette politique de la ville pour donner la parole aux associations et aux habitants des quartiers. C'était une première démarche de démocratie participative. Ça faisait suite aux travaux de Meshwash Baké, tous ces travaux-là, pour que les citoyens, dans toutes les instances, dans tous les copiles, puissent avoir leur mot à dire. Les lois suivantes ont donné au Conseil citoyen la faculté d'interpeller directement les élus. Ce que je n'ai pas manqué de faire, ce droit d'interpellation, je l'ai joué à plusieurs reprises. Le problème, c'est que je crains, vers la fin maintenant de mes activités, être devenu, comment dirais-je, un aboyeur permanent. C'est-à-dire que le préfet m'écoute, tout le monde m'écoute, mais on ne fait que m'écouter. Et il n'y a pas de résultat. On a été grugé parce que les habitants et les associations devaient avoir le mot à dire sur la construction de la L2 et sur la manière dont les choses, les habitants ont vécu un enfer. Hein. Entre deux gros travaux, les travaux de la rue, les travaux de la L2, et on nous a fait croire qu'il y avait de la concertation. Moi, je puis garantir qu'il n'y a jamais eu de concertation. Et la parole des habitants n'a jamais été entendue. Les conseils citoyens ne sont devenus, bon, mis à part certains qui agissent et qui continuent à y croire, ne sont devenus que des appendices de l'État, des collectivités, etc. Que des appendices, justement, pour rester droit dans leurs bottes au niveau de la loi, puisque la loi dit que les conseils citoyens doivent être consultés à plusieurs moments, plusieurs reprises, etc., etc. Tout ça, ça a été du bidon. Je l'ai déjà dit, je le répète encore, surtout à l'aune de la où on va voter un nouveau programme, un nouveau contrat de ville. Le contrat de ville, ça a été du n'importe quoi, du fourre-tout, à tel point qu'il y a un signataire du contrat de ville, le conseil régional, qui n'a pas donné suite à sa signature, qui a quitté le contrat de ville en cours de route, etc. C'était vraiment du n'importe quoi. Alors de temps en temps, on nous dit « Oui, mais il va falloir que vous repartiez au combat, etc. etc. » Je verrai bien ce que c'est pas moi qui vais mener ces combats-là, mais je vais bien voir quels sont les pouvoirs réels qui seront donnés à ces nouveaux conseils citoyens qui vont se mettre en place dans un an ou deux. Le politique n'a jamais voulu de ce contre-pouvoir, que ce soit la métropole, que ce soit la ville, que ce soit etc. L'État, lui, est tenu par un texte de loi. L'État, le préfet, est obligé de faire semblant. Donc il ne peut pas dire « Non, je ne vous reçois pas, vous conseils citoyens, non, mais... » parle toujours, tu m'intéresses. Donc c'est ce coup de gueule et c'est ce qui a fait que les quelques personnes encore volontaires, qu'ils soient habitants, qu'ils soient associations, qui voulaient s'inscrire dans ces conseils citoyens, de plus en plus les choses se sont délitées et les personnes se sont retirées de ces conseils citoyens. Et je puis dire, pour ne pas faire l'éternel nostalgique où on a raconté qu'une petite partie de nos combats passés. Il n'y a plus aucune solidarité que je retrouve au sein du Grand Saint-Barthélemy. On continuera à l'appeler ainsi, puisque c'est ce territoire qui nous est cher. Il n'y a pas cette solidarité-là. J'ai en tête une dernière petite action qui n'engageait à rien, qui ne mettait en péril aucune structure, etc. Une petite lettre que l'on devait faire au niveau du territoire pour interpeller la politique de la ville en leur demandant mais où en est-on de subventions, comment les subventions sont distribuées. À un moment donné, on a mis des contrats pluriannuels. On s'était battu pour que les associations aient des contrats pluriannuels. Ces contrats-là ont été supprimés au bénéfice des gros. Il n'y a que les gros qui ont été sur du pluriannuel. Eh bien, les associations n'ont même pas pu se mettre d'accord pour écrire un petit courrier qui m'aurait permis de porter la voix, ce qui me reste de voix, au niveau du quartier. Je ne ressens plus aucune solidarité. On est venu, bon, parce que les démarches n'ont rien donné, parce qu'on a beaucoup aboyé, mais ça n'a donné aucun résultat. Eh bien, tout le monde, les habitants ne croient plus à toutes ces réunions que l'on faisait avant pour pouvoir faire avancer les choses. Et les structures se sont repliées sur leur propre petite vie.
Oui, bon, peut-être qu'il y a, d'autres visions, d'autres perceptions. Oui, bon, parce qu'il y a le groupe de veille qui n'intervient pas sur l'ensemble du Grand Saint-Barthélemy. Ils essayent autant que faire se peut de pouvoir agir avec les moyens dont ils possèdent. Mais apparemment, ils se retrouvent un peu dans la même problématique que toi, c'est-à-dire parler, avancer, parler des différentes problématiques, mais les choses ne sont pas forcément beaucoup avancées, malheureusement. Donc, y aurait-il pas une conclusion? Parce que nous ne sommes pas là pour dire avec Pierrot, c'est terminé. Pierrot continue, Pierre, pardon, excuse-moi. Ça, c'est dans l'intimité. Hein. Bon, depuis le temps que l'on se connaît, nous avons presque grandi ensemble, mais je ne parlerai pas de tout ça. Donc, Pierre, si tu avais, malgré tout, parce que l'heure avance, il y a des communiqués, s'il y avait un dernier mot de ta part là, pour conclure, en guise de conclusion pour l'émission aujourd'hui.
J'étais bien content de cette rétrospective aux nécrologies qui m'a été décerné. Quand on travaille, quand on est militant dans les quartiers, quand on se donne à 100%, on est obligé de passer par des hauts et des bas. On a des grands moments d'exaltation où on pense que les choses, ça y est, on est arrivé presque au bord de ce que l'on voulait faire, pas du précipice, hein, parce que si on fait un pas, on tombe, mais on voit nos réalisés se concrétiser pour que 2 jours après, 3 jours après, les choses rechutent. On pense avoir avancé d'un pas, malheureusement, mais c'est peut-être le sort réservé aux militants, on recule de 2 pas. On n'a jamais eu à franchir des pas vraiment décisifs. Depuis que je suis au Conseil citoyen, je ne peux pas dire quelle est l'action décisive que j'ai pu mettre en place. Donc c'est peut-être le sort des habitants et de ceux qui travaillent dans les quartiers. Mais il faut toujours être positif. Après nous, il y aura toujours de la relève. Il y a toujours des collectifs. Alors j'en vois surtout dans le centre-ville. Il faut voir le combat qui a été mené par le collectif Centre-Ville, etc. Il y a d'autres collectifs. Moi, je porte le témoignage. À la limite, c'est pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière, un petit coup de pied au cul, mais en disant, mais réveillons-nous. Je n'ai pas dit abandonner l'action, mais réveillons-nous.
Mais juste un petit mot aussi à ajouter. Concernant le Conseil citoyen, il y a une rumeur qui circulerait, je ne sais pas si elle est exacte, est-ce qu'il y aurait un projet de fédération des conseils citoyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est mort-né? Ou bien, bon, c'est pour essayer de donner une perspective aussi au Conseil citoyen.
J'étais aussi à l'origine de cette fédération des conseils citoyens. Cette fédération des conseils citoyens existe, elle travaille, etc. Mais on ne fédère que des conseils qui sont costauds, etc. La fédération est reconnue en préfecture, etc., etc. Mais on a voulu monter cette action parce que justement les conseils citoyens, chacun de leur côté, mis à part au centre-ville et peut-être à d'autres endroits, étaient en perte de vitesse, et on voulait que cette fédération porte la parole unique de ces conseils citoyens et les exigences qui sont communes à l'ensemble des quartiers de Marseille.
Eh bien, merci, n'est-ce pas, Lily ?
Merci, Pierrot. Dernière respiration, pas dernière, avant-dernière respiration musicale avant les communiqués de presse. Georges Brassens, La mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy, avec vous sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie de notre invité Pierre Lézot, et nous sommes dans notre dernière partie d'émission, celle relative aux communiqués de presse. Donc, l'association Sheba organise une semaine de lutte contre les violences faites aux femmes du 21 au 25 novembre. Bon, sachant qu'on est le 24 novembre, on n'est pas en retard, mais c'est l'émission, la programmation qui est telle qu'elle est. Donc aujourd'hui à 14h a eu lieu une visite guidée d'une exposition et un atelier d'écriture. Et demain, à 18h, aura lieu une conférence intitulée « Face à la violence, vos droits » avec la participation de maître Coralie Samira. Et à 20h30, la projection du film « Woman » d'Anastasia Mikova et Yanastus Bertrand. Pour toute info, vous pouvez appeler au 06 98 52 53 09. On passe à une information qui nous a été communiquée par l'espace culturel Busserine. C'est le retour du festival Occupé du 28 novembre au 2 décembre à l'espace culturel. Ce festival est organisé par Mémoire Vive qui fera la part belle aux artistes du CRU, théâtre, danse, musique. Pour toute info, vous pouvez appeler l'espace culturel au 04 13 95 85 00. Et enfin, nous passons à une information du comité Maméga. Donc, il y aura la réinscription de François Zéga au sein du Grand Saint-Barthélemy. Cette initiative est impulsée par la mairie de Marseille, avec à sa tête Marion Bareille. Ouais, je sais que c'est la mairie de secteur. La mairie du secteur, la mairie du 13-14e. La mairesse inaugurera le mardi 2 décembre à 17h15 les deux expositions autour de François Zéga. François Zéga, un parcours singulier, et François Zéga, femme plurielle, femme puissante. Ces expositions seront suivies des interventions de Madame Christiane Thompson Zéga, fille de François Zéga, et de Madame Karima Berich, ici présente, Et s'en sera suivi d'une visite guidée des expositions par Jean-Pierre Rega. Mardi 6 et jeudi 8 décembre à 14h40 aura lieu la projection dans la salle de spectacle du documentaire Regards croisés sur Françoise Rega, l'écrivaine. Les expositions seront visibles jusqu'au vendredi 16 décembre. Bon, l'espace culturel Busserine, pour ceux qui ne savent pas où elle se situe, est sur la rue Maboubitir, dans le 14e arrondissement, et leur numéro de téléphone est, comme nous l'avons dit précédemment, 04 13 94 85 00. Ou pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le comité Mamega au 09 54 38 87 44.
Juste un complément d'information concernant le documentaire. Il a été fait en partenariat avec ACT.
Approche, culture, approche et culture et territoire. Sinon, encore un événement de taille ce week-end, c'est la carte blanche à Maryse Condé qui aura lieu le 25 et le 26 novembre avec une programmation conçue en collaboration avec le comité Mamega, l'association La Collective, l'association Mamanté et le festival Cadence Caraïbes. Donc le MUCEM invite Maryse Condé pour deux journées de rencontres, lectures, spectacles et concerts dédiés à son œuvre engagée et mémorielle. Pendant ces deux journées au MUCEM, Maryse Condé partage ses amitiés au long cours. La soprano Leïla Bredan, la voix slamée de Bladé Alimbaye, trois générations de femmes dans la pièce Désirada, les mots complices de Jean-François Carenco, Laetitia Galli, Laurent Godet, Annie Maïlis, ça fait beaucoup de monde, hein. Elle a beaucoup d'amis, Maryse Condé, Laurent Voulzy et sa guitare, les peintures de François Semiramoth, que nous connaissons pas mal au comité Mamega, parce qu'elle a notamment participé sur un projet où Pierrot n'est pas innocent encore une fois, intitulé « Chien fou dans la brousse ». C'est intitulé « Des enfants, un artiste, une œuvre », où ils ont travaillé sur l'œuvre de Maryse Condé, « Chien fou dans la brousse ». Aura lieu également une lecture théâtralisée et musicale de « La migration des cœurs », « Les chants haïtiens » de Marianne Météus et « Le son des tambours » pour un final en gros cas avec la compagnie Boukoussou.
Et parmi les invités et amis, il y aura Christiane Taubira qui sera présente aussi.
Ça, c'est un chouchou, c'est pour ça que tu précises.
Il n'y a pas de souci, j'assume voilà. Entièrement.
Bon, là, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais vous pouvez retrouver le programme détaillé accessible sur le site du MUCEM. Et attention, par contre, aucune réservation n'est possible, l'entrée est libre, donc prenez vos précautions pour participer à ces deux journées. Ensuite, à partir du 26 novembre jusqu'au 1er décembre, se dérouleront les 17e rencontres des films Femmes Méditerranée. Seront présentés à cette occasion 40 films de 16 pays dans divers cinémas et lieux, dont le MUCEM de Marseille. Tout le programme est disponible sur film-du-6 med.org. Et en 2023,
ce sera les 40 ans de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Donc il y aura des initiatives qui seront prises et aussi pour les 50 ans d'un événement tragique, c'est-à-dire l'attentat au consulat d'Algérie à Marseille.
Cette émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy touche à sa fin. Une émission soutenue par la politique de la ville à travers l'État, à la ANCT et les services politiques de la ville de la métropole. Je remercie notre invité pour sa présence, Karima également, Saïd et Jean-Marc. Et tout à l'heure, j'ai commis un crime de lèse-majesté. Je m'en excuse, Sidi, je t'avais oublié, mais... Farid, je l'oublie pas. Farid, il veut plus que je le cite, mais bon, c'est pas grave. Donc, je remercie notre ami Sidi Diallo, le technicien de Radio Galère. C'est aussi notre technicien à nous. Sans oublier Farid. Et voilà. Nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Galère. Attention, cette fois-ci, ce sera le 12 décembre pour une nouvelle émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur le thème de l'engagement de l'après-m. Et Pierrot, vous nous dire encore quelques mots.
Oui, je voulais dire que la prochaine fois, ce sera autour d'une carte blanche à Karima. Parce que depuis la SCQB, etc., tu aurais beaucoup de choses à nous raconter.
Effectivement.
Il faudrait qu'on fasse une série, page d'histoire oui. Des vieux.
C'est la tournure qu'on prend.
Mais oui, je te rassure. C'est normal. Normalement, si nous avons toujours la possibilité matériellement de pouvoir organiser les émissions des Échos du Grand Saint-Barthélemy l'année prochaine, hein, si nous avons toujours un soutien. L'année 2023 est
sous le signe de l'engagement. Exactement.
Hein, d'accord, l'engagement pour cela. Que la semaine prochaine, le 12, il y a l'engagement et l'après-m.
Et l'après-m. Voilà. Donc le 12, ce sera sur les créneaux habituels. Nous allons nous accorder une dernière respiration musicale avec le Métèque de Renaud. Oui, de Moustache.
Avec ma gueule de Métèque, de juif iran, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif iran, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et tout ce qui portait jupon. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur à source vive, je viendrai boire mes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, nous vivrons en mourir. Yeah.